VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia à la présentation de cette édition de 17h30 temps universel. On est le 10 juillet 2017 au sommaire. Attaque meurtrière à la grenade au Burundi. 8 personnes ont été tuées dans le nord du pays. L'armée malienne de nouveau visée par des attaques attribuées à des islamistes. Plusieurs soldats sont portés disparus. Réaction en République démocratique du Congo après la déclaration du président de la CENI disant que les élections ne pourront pas se tenir avant la fin de cette année.
C'est une déclaration de provocation, mais je vous dis, nous sommes derrière l'accord. L'accord prévoit les élections cette année.
Entretien dans la partie magazine de cette édition. L'Irak annonce la libération de la ville de Mossoul, mais il y a encore quelques poches de résistance. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Au Burundi, 8 personnes tuées hier soir lorsqu'une personne a lancé une grenade dans une foule dans la commune de Gatara, c'est dans le nord du pays. Une cinquantaine de personnes ont été blessées. Et plus de détails avec Christophe Kurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
Dimanche soir, vers 21h, sur la colline de Chinya, en commune Gatara, province de Kayanza, au nord du Burundi, une personne lance une grenade dans un bistrot. 6 personnes trouvent la mort sur place. 2 autres, parmi les plus de 50 personnes blessées, ont succombé à leurs blessures dans un hôpital de la localité. Selon le porte-parole de la police, une dizaine d'autres personnes se trouvent dans un état critique à l'hôpital de Gaombo. Pierre Ngurikiye affirme que les enquêtes ont déjà débuté pour trouver le terroriste assassin. L'administration, quant à elle, affirme que cette attaque visait le directeur général de la société Sogestal, société de gérance de lavage café, un certain Claude Nzavimana, natif de la même province qui avait réuni les natifs de cette commune pour partager un verre. Pierre Ngurikiye, porte-parole de la police.
La police recherche très activement l'auteur de ce crime pour qu'il soit appréhendé et qu'il soit traduit devant la justice.
Le porte-parole du parti présidentiel, Nancy Ninette Moutoni, a présenté dans un tweet toutes les condoléances du parti aux familles éprouvées. Christophe Nkourou Ziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'UDPS, le principal parti d'opposition, qualifie de provocation l'annonce faite vendredi par le président de la Commission électorale nationale indépendante de reporter la présidentielle et les législatives en RDC au-delà de 2017. Corneille Nangaa est en train d'aider Joseph Kabila à atteindre son plan de s'éterniser au pouvoir, a déclaré Augustin Kabuya, le porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition. Situation sécuritaire préoccupante dans la région de Menaka, dans le nord-est du Mali. En l'espace de 2 jours, la région a enregistré 3 attaques d'hommes armés avec un bilan provisoire de 5 tués parmi les civils. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Le samedi dernier, des assaillants ont attaqué le marché de Tagalalt à 30 km d'Andraboukan vers la frontière du Niger. Le bilan de cette attaque fait état de 2 civils tués, du carburant, des denrées de première nécessité et des motos emportées. Toujours dans la région de Menaka, le dimanche, c'est le marché d'Andraboukan qui a été la cible d'une attaque d'hommes armés qui serait venus aussi sur des motos. Le bilan fait état de 3 personnes tuées parmi la population civile. Le même dimanche, cette fois-ci, au sud de la ville de Menaka, sur la route Songo, un convoi militaire des FAMA tombe dans une embuscade à 60 km de la ville dans la localité de Adrantekilit. Aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Il faut le rappeler, il y a seulement quelques jours, l'émir de l'État islamique au Grand Sahara, Abu Walid As-Sarawi, a proféré des menaces sérieuses à l'encontre de Moussa Agharatouman du MSA et El Hadj Gamou du Gatia. Ce sont ces 2 mouvements qui ont le contrôle de la région de Menaka.
Au Sénégal, la campagne électorale pour les législatives du 30 juillet a démarré ce week-end. 47 listes sont en compétition pour élire les 165 députés de la prochaine Assemblée nationale. L'ancien président Abdoulaye Wade, de 92 ans, est arrivé à Dakar pour battre campagne pour une des coalitions dont il est la tête de liste. Les autorités soudanaises espèrent la levée dès cette semaine des sanctions américaines contre Khartoum. En janvier, l'ex-président américain Barack Obama avait décidé de lever une partie des sanctions économiques imposées au Soudan en 1997 pour son soutien présumé à des islamistes. Nasser Zefzafi, le leader de la contestation populaire dans le nord du Maroc, a été interrogé ce lundi par un juge d'instruction à Casablanca. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le passage de Nasser Zefzafi devant le juge d'instruction est une étape préalable à son procès qui ne va pas se tenir avant la fin du mois. Cette instruction devrait se dérouler jusqu'au 27 juillet. Le chef de l'Irak est accusé, entre autres, d'atteinte à la sécurité intérieure. Aucune mobilisation particulière n'était visible devant le tribunal. Depuis 8 mois, Al-Oseima et Imzouren connaissent des manifestations pour réclamer le développement de la région du Rif et la libération des détenus. 176 personnes ont été placées en détention préventive. 120 sont en cours de jugement. Des peines allant jusqu'à 20 mois de prison ont déjà été prononcées. La relance par l'État d'un plan d'investissement n'a pas suffi pour enrayer la colère. Les forces de l'ordre ont quitté les lieux publics à Al-Oseima et Imzouren, sur ordre du roi, pour faire baisser la tension.
La France et l'Égypte ont débuté ce lundi des exercices militaires communs dans les eaux territoriales égyptiennes. Ces exercices interviennent dans le cadre du renforcement de la coopération entre les armées des deux pays, selon le communiqué de l'armée égyptienne. Depuis 2015, l'Égypte a renforcé son arsenal militaire en achetant à la France du matériel militaire pour un montant estimé à près de 6 milliards d'euros.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les forces irakiennes tentent d'éliminer l'ultime poche de résistance djihadiste à Mossoul après la visite hier du Premier ministre qui a félicité les troupes pour leur victoire. Une victoire qui ne sera annoncée, dit-il, qu'après la libération totale de la ville. Salwa Jafari. Je reviens donc sur cet élément. Les forces irakiennes tentent d'éliminer l'ultime poche de résistance djihadiste à Mossoul. Les explications de Salwa Jafari.
La victoire totale n'a pas encore été officiellement annoncée et pourtant une atmosphère de jubilation règne déjà dans la cité en ruine.
Nous sommes si heureux que les Irakiens aient libéré la ville de Mossoul et nous espérons libérer la ville de Tal Afar, Houaïdia et les autres zones dans la province d'Anbar occidentale.
À Mossoul, en tout cas, de violents affrontements ont eu lieu aujourd'hui dans la petite zone où sont retranchés les derniers djihadistes dans la vieille ville. Même si toute la ville est reprise, le danger ne sera pas complètement écarté, explique le brigadier Haïdar Fadil.
Nous sommes également préoccupés par certaines des cellules dormantes qui peuvent apparaître lorsque les troupes vont se retirer parce qu'ils ont d'autres missions à accomplir pour Daesh. Il est possible que ces cellules exploitent la situation et créent le chaos.
Selon l'armée irakienne, entre 3000 et 4000 civils se trouvent dans la dernière poche djihadiste, mais ce chiffre n'a pas pu être confirmé de sources indépendantes.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson entame ce lundi au Koweït une tournée de plusieurs jours dans la région du Golfe pour tenter une médiation entre le Qatar et ses voisins. Cette tournée, qui doit le conduire aussi au Qatar et en Arabie Saoudite, intervient alors que la médiation du Koweït n'a encore rien donné. En Turquie, le chef de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu a rendu visite en prison à un député dont l'incarcération a donné lieu à un vaste mouvement de protestation. L'ex-journaliste devenu député a été condamné à 25 ans de prison pour avoir fourni à un journal d'opposition des informations confidentielles. L'opposition dénonce une dérive autoritaire du chef de l'État Recep Tayyip Erdogan depuis le putsch manqué du 15 juillet 2016. L'Afghanistan a promulgué une loi contre la cybercriminalité afin de limiter l'usage des réseaux sociaux par les insurgés talibans et ceux du groupe État islamique. Mais certaines associations craignent une restriction de la liberté d'expression. La loi sur le cybercrime, signée par le président Ashraf Ghani, pénalise des activités comme le piratage informatique, l'apologie des divisions ethniques, la diffamation, la divulgation d'informations gouvernementales confidentielles et le cyberterrorisme. Les talibans, pourtant longtemps critiques aux technologies modernes, ont développé leur savoir-faire et disposent maintenant d'une équipe de relations publiques très active sur Twitter, Facebook et Internet de façon générale. Le ministre israélien de l'énergie a effectué ce lundi une rare visite d'un haut responsable politique israélien en Cisjordanie, occupé pour signer un accord sur l'électricité avec l'autorité palestinienne. Les deux parties ont annoncé un renforcement de l'approvisionnement en électricité dans la zone. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique dans la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
La Côte d'Ivoire, un des leaders africains de l'électricité, a annoncé un projet d'utilisation de drones pour surveiller ses 5000 km de lignes à haute tension. Ces lignes vont doubler dans 5 ans avec les interconnexions avec la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire, qui exporte le courant vers le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina et le Mali, a mis en service le barrage hydroélectrique de Soubré, construit par la Chine pour résorber le déficit énergétique du pays. Abidjan compte investir 18 milliards de dollars dans le secteur d'ici 2030. Électricité toujours, mais en Égypte, hausse des tarifs entre 18 et 42% pour les ménages. Les autorités tentent d'en finir avec les subventions dans le cadre des réformes économiques drastiques, en contrepartie d'un prêt de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Mais pour parer à la grogne sociale, le Caire annonce une enveloppe de 4,1 milliards de dollars en faveur des plus démunis. Report du processus de libéralisation du dirham marocain. Le démarrage était prévu pour début juillet. Le gouvernement a justifié le retard par la nécessité de procéder à des études supplémentaires. Le taux de change du dirham est actuellement fixé par les autorités monétaires marocaines.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On connaît les affiches des quarts de finale en Ligue africaine des champions.
Tout à fait, les favoris sont au rendez-vous. Seule fausse note, l'élimination du Zamalek. C'est donc le rival Al Ahly qui affrontera un adversaire bien connu, l'Espérance de Tunis, qui a terminé premier de son groupe devant le champion en titre. De son côté, le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud s'offre un autre choc face au Wydad de Casablanca du Maroc. La surprise des cas à la Ligue Tripoli de la Libye qui sera face à l'étoile sportive du Sahel, tandis que Ferroviaro de Maputo en Mozambique et l'USM Alger se disputeront un ticket pour les demi-finales. On aura donc à la Ligue de Tripoli contre étoile du Sahel, à la Ligue d'Égypte Espérance de Tunis, les Mozambicains du Ferroviaro face à l'USM Alger, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns contre les Marocains du Wydad. Les matchs des cas sont prévus pour les week-ends du 8 au 10 septembre en aller, 15 et 17 en retour.
La Coupe CAF a aussi rendu le verdict de ses oppositions en quart.
Effectivement, on aura des rencontres aux allures de derby régionaux, à l'instar de Super Sport United d'Afrique du Sud face à Zesco United de la Zambie ou encore FUS Rabat du Maroc, CS Faxien de la Tunisie. Les deux autres quarts de finale opposeront d'un côté le tout-puissant Mazembe, détenteur du titre au Recreativo Libolo d'Angola. Le Mouloudia Club d'Alger en découdra avec le club africain de Tunis. Les matchs des quarts se joueront les week-ends du 8 au 10 septembre et en retour une semaine plus tard. Mention spécial au nord de l'Afrique qui place 4 équipes en quart, FUS Rabat, CS Sfaxien de Tunisie, MC Alger, Club Africain de Tunis et TP Mazembe de la RDC contre le Recreativo Libolo d'Angola, Supersport d'Afrique du Sud, Zesco de la Zambie.
Et rappelons que pour la 6e et dernière journée, les favoris ont tenu leur rang en Coupe CAF.
Oui, du suspense, il y en a eu à Lumumbashi entre Mazembe et Oroya dans le groupe D. Finalement, les Congolais l'emportent 2-1 et accompagnent Super Sport qui a encore étrié CF Mounana du Gabon 4-1. Dans le groupe A, où les quatre formations pouvaient encore se qualifier, c'est finalement le FUS et le club africain qui se sont propulsés en quart. La formation marocaine a dominé les Nigériens de River 2-1 tandis que les Tunisiens ont éclaté les Ougandais de Kampala Sidi 4-0. Déjà qualifié avant cette dernière journée, le CS Sfaxien et le MC Alger s'affrontaient. Brillante victoire des Tunisiens, 4-0 également. Seul le match Recreativo Libolo, Soumoua s'est disputé dans le groupe C après la disqualification d'Ilad Obied. Malgré un match nul 0-0, les Angolais rejoignent Zesco au prochain tour.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour en République démocratique du Congo. L'UDPS, le principal parti d'opposition, a qualifié de provocation l'annonce du président de la commission électorale de reporter les élections au-delà de 2017. L'accord de la Saint-Sylvestre stipule que la tenue des élections présidentielles, législatives et locales doivent se tenir simultanément d'ici décembre 2017. Nathalie Barge a recueilli la réaction du porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabuya.
La déclaration faite par M. Nanga, c'est une déclaration irresponsable qui risque d'entraîner le pays dans beaucoup de situations que lui-même ne sera pas en mesure de maîtriser, puisqu'il a été convenu qu'à la fin de cette année, la CENI va organiser des élections. Mais malheureusement, comme il est au service de M. Joseph Kabila avec sa famille politique, il a exprimé la volonté de la majorité au pouvoir pour énerver notre peuple. Et c'est une déclaration de provocation, mais je vous dis, nous sommes derrière l'accord. L'accord prévoit les élections cette année. Nous ne pouvons pas vraiment anticiper les choses. Si nous arrivions à la fin de cette année sans que M. Nanga, avec la CENI, convoque le corps électoral, c'est à ce moment-là que nous allons tirer toutes les conséquences, puisque nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse vivre des scénarios comme si on n'avait pas quelqu'un d'autre qui peut succéder à M. Joseph Kabila. C'est une distraction.
Le président de la commission électorale a notamment cité la sécurité dans le Kasaï. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des principales raisons?
Cette insécurité dont vous faites allusion, c'est une insécurité montée de toutes pièces par les pouvoirs en place. La preuve en est que quand la communauté internationale a voulu mettre sur pied une commission d'enquête indépendante pilotée par la communauté internationale au niveau de la majorité au pouvoir, ils veulent être juges et partis. Ça ne peut pas se faire comme ça. Cette histoire de l'insécurité, c'est elle-même qui avait créé ça. Et maintenant, ils ne peuvent pas bloquer toute une nation. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe par exemple à Chikapa là-bas, il y a les gens qui tuent la population, mais le pouvoir ne réagit pas. C'est pour vous dire que cette histoire ne nous engage pas. Ils ont créé ça pour ne pas organiser les élections. C'est dans leur stratégie. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que M. Joseph Kabila, avec sa famille politique, crée des histoires pour qu'il n'y ait pas élection. M. Nanga a fait seulement la volonté de son parrain. C'est le régime de M. Kabila qui avait placé M. Nanga là-bas. Ça nous engage pas. Nous nous attendons les élections. Notre base est en train de se faire enrôler. C'est en fonction de ça que nous attendons d'aller aux élections.
C'était Augustin Kabuya, joint à Kinshasa. Vous pouvez suivre la suite de l'entretien sur voafrique.com dans lequel le porte-parole de l'UDPS s'exprime sur la crise au sein de son parti et la dépouille d'Étienne Tshisekedi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Congo-Brazzaville, les femmes sont dans la course pour une représentation conséquente à l'Assemblée nationale et dans les assemblées locales. Plusieurs d'entre elles ont pris part à des séminaires de formation et sont descendues jusque dans les coins les plus reculés à la pêche de voix pour le scrutin de dimanche prochain. La loi congolaise oblige aux partis politiques de porter à 30% le nombre de femmes dans leur liste de candidature. De Brazzaville, la correspondance de Nguel Angoussou.
Les femmes sont cette fois-ci décidées à se faire une place à l'Assemblée nationale et dans les assemblées locales. Elles sont donc prêtes à tout proposer pour se faire élire face à des hommes bien rodés en politique. Angélique Anjembo est candidate à Mongali, en plein cœur de Brazzaville.
Je pense que ça va être ma bataille pendant les 14 jours des campagnes, d'essayer de me battre avec la population de Mongali, de comprendre que nous avons besoin de cultiver la terre. Au lieu que je te donne 1000 francs tous les jours, je te demande d'aller cueillir la tomate derrière ta maison et la vendre pour avoir tes 2000 francs. Bon, je me suis refusée de dire je donnerai des pagnes aux gens. Mais je refuse de communiquer comme ça aujourd'hui. Parce que je te donne un pagne aujourd'hui, tu portes ton pagne. Et demain.
La bataille est dure, les femmes le savent, à tel point que même à la dernière minute, elles suivent des formations.
Le séminaire m'a donné du punch, ça m'a boosté vraiment pour ces campagnes et je suis sûre de gagner.
On a beaucoup appris dans la méthode, la communication surtout, et comment organiser une élection locale. Je suis même trop prête parce que c'est déjà avoir la maîtrise de son terrain.
Emilienne Raoul, l'une des formatrices, demande même aux femmes de soutenir leurs sœurs du quartier.
La solidarité, lorsque nous allons dans les élections, nous ne pouvons pas aller aux élections seuls. Nous devons aller avec les femmes et aujourd'hui avec les jeunes. Je suis une ancienne députée. Mais quand j'ai eu à battre campagne, c'était sur les femmes que je comptais et sur les jeunes.
Au Congo-Brazzaville, les femmes représentent plus de 52% de la population nationale, mais elles n'occupent que 7% des sièges au Parlement. Inès Nefer Ingani, ministre de la promotion de la femme, elle-même candidate à Brazzaville, estime que le temps est arrivé de gagner plus de sièges à l'hémicycle.
Parce que ce n'est pas tout d'être candidate, mais il faut vraiment qu'elles se battent pour être vraiment des députées. Donc je suis le leitmotiv des femmes. Donc j'ai l'obligation de me battre pour gagner. Sinon, comment pourrais-je encourager des femmes à gagner et intégrer l'Assemblée si moi-même je ne suis pas exemplaire?
Les femmes ont cette fois-ci renforcé leur lutte en politique car une nouvelle loi leur donne 30% de quota de participation aux institutions électives, d'où leur engouement. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
À votre avis, ce soir à 18h, temps universel sur VOA Afrique, la colère des députés au Kenya, ils refusent la baisse de leur salaire, ils devraient également perdre quelques avantages, mais le gouvernement explique que c'est pour réduire la masse salariale dans le secteur public. La mesure est supposée entrer en vigueur après les prochaines élections. Qu'en pensez-vous? Combien perçoivent vos députés? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez au 001 202 205 26 33 et rendez-vous sur VOA Afrique en compagnie d'Eric Manilakiza.
Au moins 6000 personnes fuyant le conflit qui sévit dans l'état de Taraba au Nigeria avec leur bétail se retrouvent piégées près de la frontière camerounaise dans des conditions humanitaires difficiles. Des dizaines de réfugiés sont décédés et le personnel médical du Cameroun appelle à l'assistance pour soigner les survivants. Un reportage signé Moki Edwin Kinzeka avec un récit de Gabi Dorsil.
Une vingtaine de réfugiés viennent d'arriver au centre de santé catholique d'Ata au Cameroun. Ils ont l'air fatigués, affamés et assoiffés après avoir parcouru de longues distances à pied. Leur porte-parole, Bello Dewa Umaru, âgé de 53 ans, affirme qu'ils ont fui de violents affrontements entre les Mambila et les éleveurs musulmans Fulani. La plupart d'entre nous se sont rendus au Cameroun. Les Mambila ont voulu chasser les Fulani dans l'ensemble du plateau de Jos. Nous avons essayé de calmer les gens. Nous n'avons jamais pensé que la situation prendrait une telle ampleur. Je pense aux gens de Mambila, des gens avec lesquels nous avons vécu pendant 100 ans. Nous ne pensions pas que ces personnes nous blesseraient ainsi et menaceraient de nous effacer complètement. Fin de citation. La majorité de ceux qui arrivent sont des femmes et des enfants. Jean-Marie Coué, médecin du centre de santé d'Ata, affirme n'avoir plus d'espace et de médicaments pour traiter les blessés.
Nous avons trouvé qu'il y en a les blessés. Il y en a ceux qui ont perdu la tête, tout simplement parce que c'est un trouble de mémoire suite à ce qui s'est passé. Soit il a vu sa famille terminée, n'est-ce pas? Ils ont tué tout le monde dans sa famille et il s'est retrouvé seul. Nous avons également eu des cas où les femmes accouchent en fuyant. Il y a celles qui sont arrivées et accouchées dans la formation sanitaire le même jour.
La Croix-Rouge camerounaise a déployé son personnel local dans la zone frontalière. Moïse Noursam Lemi est son représentant à Ata.
La Croix-Rouge camerounaise a commencé le recensement des réfugiés venant du Nigeria et sensibiliser la population de bien les accueillir ensemble avec les chefs traditionnels et les leaders traditionnels et autres.
Justin Monchili, le plus haut responsable camerounais dans la région, dit avoir pris des mesures pour assurer la sécurité de la population en attendant l'appui des organismes humanitaires et du gouvernement.
J'ai demandé à ça qu'on ouvre l'école, les salles de l'école publique pour les caser. Nous avons instruit les chefs de les accueillir et de tout faire pour leur faciliter la tâche. Pour des raisons humanitaires.
L'État de Taraba compte plus de 80 groupes ethniques. C'est un foyer de violence où se répètent les attaques, mutilations et meurtres. Abuja attribue plutôt ces violences à la tension qui prévaut. Abuja attribue ces violences non à la religion, mais à la tension qui prévaut depuis longtemps entre agriculteurs et éleveurs dans la région. Abuja attribue ces violences à la tension qui prévaut depuis longtemps entre agriculteurs et éleveurs dans la région.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À Bagdad, des habitants ont fêté la nuit dernière la reprise de Mossoul, la deuxième ville du pays, une opération soutenue par la coalition internationale dirigée par Washington et qui a duré près de 9 mois, et qui a battu à joint à Paris Frédéric Hensel, docteur en géopolitique et spécialiste du Proche-Orient.
Oui, c'est une victoire à court terme. C'est-à-dire que, effectivement, sur le plan militaire, Daesh a été vaincu, enfin, en tout cas, dans la deuxième ville d'Irak, la première ville en importance qu'il détenait. Mais j'ai presque envie de vous dire que l'essentiel reste à faire. L'essentiel, c'est quoi? C'est un, réunifier l'Irak. Ça, j'y crois pas, pour l'instant, notamment du fait de la volonté sécessionniste des Kurdes, qui se sont d'ailleurs renforcés dans cette histoire. Deux, il s'agit de sécuriser la ville. J'y crois très moyennement parce que les djihadistes ont déjà démontré leur volonté de se fondre dans la population. Il doit manifestement y avoir des caches d'armes et des gens risquent de se faire exploser à un rythme mensuel, hebdomadaire, voire plus, rendant la ville très peu sécurisée. Et par conséquent, la victoire, une victoire à la Pyrrhus.
Vous rejoignez quelque part le Premier ministre Al-Abadi. En fait, pour parler de victoire, il faudrait éliminer tous les djihadistes. Et comment on pourrait être optimiste dans cette optique?
De Syrie et d'Irak ne sont pas les seuls à devoir être éliminés. C'est-à-dire que la vraie victoire est une victoire idéologique. Pas une victoire militaire. Daesh n'est que le fer de lance de l'islamisme radical qui, lui, représente un véritable péril, non seulement pour le Moyen-Orient et le monde musulman, mais pour l'Occident également, et peut-être davantage encore. Et c'est ça le véritable enjeu. Vous voyez, c'est pas seulement écraser Daesh sur le plan militaire est nécessaire, mais pas suffisant.
Comment, pour vous, on peut sécuriser les civils?
C'est très difficile à dire. Une fois que vous n'avez plus de djihadistes dans la ville, il n'y a pas de raison que l'anarchie l'emporte. Vous disposez d'une solide force de police et, en principe, avec de l'aide extérieure, on doit pouvoir reconstruire assez rapidement la ville. Le problème est de savoir s'il y a des djihadistes, et à mon avis, oui, donc combien sont fondus se sont dissimulés parmi les civils, d'une part. D'autre part, où se trouvent-ils? Et enfin, quand et où ont-ils frappé? C'est ça, aujourd'hui, la véritable question.
À partir de ces questions-là, quelles seraient pour vous les solutions?
Moi, je crois beaucoup à une fédéralisation de l'Irak, dans un premier temps. D'abord parce que les sunnites n'accepteront pas, y compris les gens de Mossoul d'ailleurs, n'accepteront pas de vivre sous la férule des chiites majoritaires et qui ont libéré la ville. Ensuite, parce que les Kurdes n'accepteront plus de vivre sous la férule des Arabes. Donc l'Irak, construction artificielle britannique des années 30, doit être fédéralisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est empêcher, interdire toute propagande à caractère islamiste radical. C'est vrai dans les pays de la région, c'est vrai en Occident. Et pour ça, il faut une volonté politique de faire, il faut une véritable détermination. Et malheureusement, je ne suis pas certain que cette détermination soit encore assez développée.
C'était l'analyste politique Frédéric Hensel, joint à Paris.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ça, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Joselle Morissin, à la console Cornelius Tinner, présentation Abdourahmane Dia, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité en continu. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.